Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité. Ah ah.
Je suis étranger, je suis un peu une personne qui passe. Hein. Je vais adopter de façon délibérée la figure de l'homme marginal de Simmel. Je suis ni dedans ni dehors. Et donc, en cheminant dans la journée, j'ai eu un problème cognitif. Et il a fallu que je ramène ce qui était dit à des formes connues pour qu'elles soient colorées dans mon hippocampe et que je puisse en parler. Donc, j'ai ressaisi la journée au travers d'une série de thèmes, trois. Parce que hier, cinq, c'était trop long, donc j'en ai retenu que trois. Pour essayer de discuter l'ensemble des contributions d'un point de vue synthétique et non pas analytique. Donc, je ne vais peut-être pas citer tout le monde, mes excuses. La journée était titrée « Exprimer des mondes perçus ». Je me suis dit qu'il aurait été bien peut-être d'ajouter deux relatives. « Exprimer des mondes perçus »,« Projeter des mondes possibles » et « Cadrer des mondes souhaitables ». En dépliant mes trois points, peut-être qu'on va essayer de faire ça. La journée qu'on a passée ensemble m'a ramené à quelque chose de très ancien. En fait. Je me suis dit au XVIIIe siècle, on invente une forme de simulation du réel qui doit rendre compte de l'expérience ordinaire de personnes ordinaires. Cette forme qu'on invente, cette technologie qu'on invente, elle recouvrait beaucoup des thèmes qu'on a thématisés aujourd'hui. C'est le roman moderne. À un moment donné, on va inventer une forme narrative qui doit nous sortir de la simple mimésis, n'est pas là juste pour imiter le réel, mais qui nous projette dans la diégésis, c'est-à-dire la narration, raconter des choses. Et au moment où elle s'invente, cette forme, ce n'est pas une forme pour échapper au réel, ce n'est pas une forme pour faire de la fiction, mais c'est un outil qui va nous servir à rendre compte du réel de manière encore plus facile. Aujourd'hui, c'est ça dont on a discuté finalement. C'est comment est-ce qu'on arrive à inventer, remobiliser ou encastrer dans nos façons de faire ordinaires, quotidiennes, des façons de dire de manière encore plus précise le réel. Et ça résonnait à peu près dans toutes les interventions. Donc, à un moment donné, on invente le roman comme outil de simulation de l'ordinaire qui rend compte d'une nouvelle épistémologie. Si on invente cette forme-là, à un moment donné, c'est parce que quelque chose de neuf survient ou dans le cours de ce XVIIIe siècle. Il y a eu beaucoup d'interprétations de cette intervention. Est-ce qu'elle naît parce qu'une nouvelle force sociale émerge qui s'appelle la bourgeoisie, qui a besoin d'avoir un outil qui lui permette de se dire, de se rendre visible, de se sentir? C'est une première grande interprétation. Il y a une autre grande interprétation qui vient plutôt de la psychohistoire, qui va se dire, non, on invente une forme qui va nous permettre de dire une nouvelle subjectivité. Ce qu'invente le XVIIIe siècle, c'est un homme qui n'est plus un être humain, qui n'est plus simplement de raison, mais qui est un être sensible. Et un être sensible qui doit se trouver dans le monde. Et se trouver dans le monde, c'est une énigme, et c'est expérimenter des situations diverses et multiples. Et les romans viennent là pour nous permettre d'expérimenter ces sensations, ces situations diverses et multiples, dans des moments de subjectivation. Et puis, il y a donc la dernière grande interprétation, c'est qu'en plus d'être quelque chose en lien avec la subjectivité moderne, c'est donc vraiment une nouvelle anthropologie qui émerge, une nouvelle théorie du sujet connaissant, de la manière dont il va connaître la réalité. En lien avec tout ça, je me suis dit, mais on a tous thématisé aujourd'hui, enfin vous avez tous thématisé des choses qui résonnaient fortement avec l'invention de ce roman contemporain. On avait des formes qui cherchent, en fait, c'est la forme qui vient montrer la recherche. On avait des formes qui sont de plus en plus réalistes pour affiner le degré de précision de description. Qu'est-ce que ça nous raconte sur les transformations sociales qu'on est en train de vivre depuis 30, 40 ans? La nouvelle anthropologie est en train d'émerger depuis 30 et 40 ans et qui conduit à ce qu'on valorise ces formes de recherche. C'est peut-être le thème d'une prochaine journée à Halle, finalement. Quels sont les modèles anthropologiques qu'il y a derrière cette forme d'expérimentation que vous êtes en train de thématiser et que d'autres thématisent avec vous? Évidemment, j'ai planté. Voilà. Je poursuis avec la deuxième forme. Donc, on invente cette machine à simuler, puis aujourd'hui, on prolonge ces effets-là. Cette machine aussi à simuler qu'il y a le roman, qui vise à être de plus en plus réaliste, elle invente aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans les méthodes, qui était le but du roman, c'est d'introduire une multiplicité des voix. Plus simplement un point de vue qui narre, mais le roman contemporain, il est de plus en plus polyphonique. Et c'est une façon de rentrer en dialogue avec d'autres voix. Et un certain nombre de méthodes, de dispositifs qui nous étaient présentés aujourd'hui, étaient là pour faire du dialogisme. La méthode que nous présente Dimitria, à un moment survient la mise en dialogue des perceptions, des ressentis, des émotions qui fait advenir quelque chose, un niveau d'agrégation supplémentaire, qui nous ouvre en même temps à ce qu'est la ville, qui est toujours un point de vue partagé sur la réalité. Donc on est en train de réinventer des machines qui nous permettent de sentir, d'éprouver. On a expérimenté préalablement. La question que je me posais aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a une formidable inventivité. Et puis après, on arrive à un moment qui est pourrait être celui des ciseaux du format. C'est-à-dire que dans cette formidable inventivité, tout ça va se terminer à un moment donné, en tout cas pour les thésards, en un manuscrit d'un certain nombre de pages, édité sous forme papier, avec quelques illustrations dedans, et puis évidemment peut-être un volume d'annexes avec des photos. Est-ce qu'on n'arrive pas à faire cette révolution qui a fait le XVIIIe siècle dans le monde de la recherche, qui consisterait à construire l'émergence de nouveaux formats à partir des nouveaux outils qui nous sont proposés et qui permettraient de rompre aussi avec un certain nombre d'apories que je voyais émerger dans des interventions où on reste dans une mode de construction qui est finalement assez linéaire. Survient un moment où on a collecté le matériau, il faut le restituer à des publics différents, et puis on change de format pour le restituer auprès de publics différents. On ne pourrait pas rentrer dans quelque chose qui serait plus réticulaire, où on arrive à faire ça en même temps. Parce qu'on a des nouvelles technologies qui nous permettent de produire des nouveaux formats scientifiques. Alors, c'est peut-être un programme pour les 30 prochaines années, parce qu'il faudra faire changer les cultures disciplinaires, mais il me semble qu'il y a quelque chose là qui doit être creusé. Ensuite, ce qui a émergé aussi beaucoup, qui est en lien avec les théories du roman, c'est la façon dont nos façons de narrer, de restituer, de rendre compte du réel, elles faisaient plus que ça. Elles instituent des mondes possibles. Elles créent ce que la théorie littéraire appelle des paratopes. C'est à la fois réel et c'est à la fois fictionnel, mais quand même ça habite le réel. Donc une paratopie qui est à la fois réelle et fictionnelle, mais qui nous permet d'expérimenter des possibilités de l'être, qui sont toutes à la fois des possibilités des lieux et des corps qui les habitent. C'était présent dans la simulation, c'était présent dans la réalité augmentée, qui est un lieu qui existe sans exister, mais qui nous permet d'expérimenter ce que ça peut devenir autrement. Et puis ça nous permet aussi de réinterroger les questions que posait hier Nicolas, c'est-à-dire que les lieux sont toujours des fantômes et des spectres qui sont passés, présents et futurs, et puis qu'ils sont là sans être là. Et par cet intermédiaire-là, finalement, on rentrait sur la façon dont les approches qu'on a thématisées aujourd'hui peuvent nourrir le projet. Et moi, vu de loin, ce qui m'a manqué, c'est ça. On a vu comment sciences humaines et sciences de l'ingénierie pouvaient dialoguer, mais on a peu thématisé la manière dont ça pouvait alimenter le projet. En quoi ça nourrit la possibilité de créer d'autres lieux, de les approfondir, de les amplifier. Comment toutes ces technologies, elles modifient le projet parce que ça permet de faire venir tous les lieux en même temps en un même lieu. Ça permet de mettre les lieux en écho les uns par rapport aux autres. Et puis, comme il me reste 2 minutes, je vais zapper directement sur la troisième dimension. J'ai été frappé par la proximité qui existait entre les techniques et les technologies que des chercheurs mettaient en place pour saisir le réel, le restituer, le projeter, et les outils qui sont mis en place par des dispositifs que moi j'étudie dans le cadre de la communication du projet urbain. La façon dont tous ces dispositifs qu'on expérimente sont presque instantanément saisis par les agents de communication du projet urbain pour cadrer la fabrique urbaine et construire des régimes d'intelligibilité de manière spontanée. C'est des chercheurs à l'état pratique, comme on détaillait hier, et quand ils saisissent quelque chose, ils se disent, tiens, il y a peut-être quelque chose qui va me permettre de mieux communiquer mon grand projet, qui va permettre peut-être d'en construire la réception, qui va permettre de construire les régimes d'appréhension du politique et de ce qu'on veut mettre en place. Les différentes techniques qu'on a vu exploiter dans le champ de la recherche, si vous allez une fois vous visiter Genève, dans le cadre de certaines de ces opérations de communication des grands projets, on verra que tous ces dispositifs sont mobilisés pour expérimenter le nouveau projet avec le casque de réalité virtuelle. On va être ravis d'apprendre qu'on peut compresser plus l'image et rendre compte encore de manière plus réelle et réaliste ce qu'on peut ressentir de ce grand projet qui va devenir. La manière dont aussi le jeu permet d'expérimenter est une façon de simuler ce qui va devenir. La manière dont les maquettes permettent de pénétrer dans la matérialité et la façon dont finalement le corps devient un lieu dans lequel va pouvoir s'inscrire un discours du politique sur la ville de manière peut-être aussi, et on va finir là-dessus, d'accroître l'acceptabilité du projet urbain. Peut-être que là, on retrouve certains des travaux conduits par AAU à Nantes sur la fabrique urbaine et sur ce que Pauline Ouvrard, Laurent Devim appelle le nouvel esprit de l'urbanisme, qui, à force d'être nouveau, n'est plus si nouveau, puis qui rend surtout compte d'une capacité de l'urbanisme à se saisir de sa critique pour améliorer ses produits, mais aussi peut-être pour désamorcer la critique. Peut-être qu'on retrouve là des choses sur la manière dont les praticiens sont des chercheurs à l'état pratique qui arrivent à s'emparer très très rapidement de ce qu'on est en train de faire pour en faire autre chose. Et ce sera tout.